Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Qui n'a jamais eu cette sensation d'être un peu perdu devant les rayons du supermarché, entre les labels bio, les écolabels, le Nutri-Score, et voilà maintenant qu'on nous parle d'affichage environnemental. Alors oui, on nous promet plus de transparence pour choisir des aliments bons pour la planète, mais franchement, comment s'y retrouver dans cette jungle d'infos? Surtout quand on sait que certaines allégations vertes, elles sont parfois un peu floues, disons. C'est justement dans ce contexte que la France a lancé une initiative importante, c'est dans les lois AGEC et Climat et Résilience. L'idée, c'est de rendre obligatoire un score environnemental sur les produits alimentaires. L'objectif est double, nous aider, nous consommateurs, à mieux choisir, et puis aussi pousser les fabricants vers des pratiques plus durables.
C'est une belle ambition, mais ça soulève une question énorme. Comment on évalue et surtout comment on communique simplement l'impact réel de ce qu'on a dans notre assiette ? Aujourd'hui, on va creuser une proposition qui fait pas mal de bruit et qui veut justement relever ce défi, le Planet Score. Pourquoi il a été créé ? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux méthodes qui existent déjà, comme l'analyse du cycle de vie, qui est quand même la référence scientifique ? Et puis, comment il essaie de nous donner une image, disons, plus complète des enjeux environnementaux liés à notre alimentation ? Pour décortiquer tout ça, on s'est plongé dans pas mal de documents, la méthodologie du Planet Score lui-même, bien sûr, des articles qui expliquent un peu le contexte, les débats, des rapports techniques aussi, notamment sur la question du climat, et puis des présentations qui détaillent comment ça marche. Notre objectif, c'est d'extraire l'essentiel pour que tout le monde comprenne bien les tenants et aboutissants de ce qui pourrait être notre futur étiquetage. Alors, pour commencer, remets-toi un peu les choses dans leur contexte. Cette idée d'affichage environnemental, elle sort pas de nulle part. Les pouvoirs publics français, ils veulent un outil officiel, solide scientifiquement, pour guider nos achats et encourager l'éco-conception chez les industriels. Il y a des expérimentations en cours, d'ailleurs, pour choisir la méthode finale.
Exactement. Et la base scientifique de tout ça, le socle, on va dire, c'est l'analyse du cycle de vie, la CV. C'est une méthode qui est standardisée, au niveau international, il y a les normes ISO, le cadre européen PEF. C'est très complet sur le papier. Ça regarde l'impact d'un produit de A à Z, du champ jusqu'à la poubelle, et sur plein de critères, le climat, l'eau, les sols, etc. En France, on a une grosse base de données publique pour ça. C'est Agribalise. Elle a été développée par l'ADEME et INRAE, et elle applique cet ACV aux produits alimentaires. Un des gros avantages théoriques de l'ACV, c'est qu'elle permet d'éviter ce qu'on appelle les transferts de pollution. C'est-à-dire s'assurer qu'en améliorant un aspect, on ne va pas dégrader la situation sur un autre plan.
D'accord, une approche solide donc. Mais si je comprends bien nos sources, elle a quand même des limites assez importantes. Et c'est là justement que le Planet Score arrive en se positionnant un peu comme une réponse à ces angles morts.
C'est tout à fait ça. Et ces limites d'ailleurs, elles sont reconnues, même par les organismes qui développent Agribalise, comme l'ADEME ou l'INRAE. Un premier point qui revient souvent, c'est l'utilisation massive de données moyennes, de ce qu'on appelle des proxys. En gros, faute d'infos vraiment spécifiques sur chaque produit, on utilise des valeurs génériques pour une bonne partie des aliments. On parle de plus de la moitié quand même.
Ce qui veut dire que ça devient compliqué de vraiment comparer, par exemple, deux produits qui semblent similaires mais qui ne sont pas fabriqués de la même façon. Les sources donnaient l'exemple de deux pizzas, une bio, une conventionnelle. Elles pourraient avoir des scores très proches, c'est ça ? Ça parlait un peu bizarre, non ?
Exactement. Les détails fins, les pratiques agricoles spécifiques, la recette exacte, tout ça peut être un peu lissé, gommé par ces moyennes. Et puis, il y a un autre point. La fiabilité scientifique, elle n'est pas la même pour tous les indicateurs de la CV. Si l'impact carbone, on maîtrise plutôt bien, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour l'écotoxicité, tout ce qui est lié aux pesticides, ou pour mesurer l'impact réel sur la biodiversité locale. Ces indicateurs-là sont jugés moins robustes, même au niveau européen.
Et le risque, j'imagine, c'est qu'en voulant tout résumer en une seule note, un seul score, on finit par minimiser l'importance de ces aspects qui sont cruciaux, mais plus durs à mesurer.
Précisément. La pondération qu'on choisit pour agréger tous ces indicateurs différents, elle peut finir par écraser l'importance d'enjeux comme l'impact des pesticides ou la préservation de la biodiversité. Et c'est là que les critiques deviennent plus vives, notamment de la part de certains acteurs, comme l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique ou une association comme l'UFC Que Choisir.
Et qu'est-ce qui reproche au fond à cette ACV standard ?
Selon eux, elle passe à côté d'impacts vraiment majeurs. Par exemple, l'effet cocktail des pesticides sur les écosystèmes et potentiellement sur notre santé, ça irait bien au-delà de ce que mesure l'écotoxicité standard de la CV. Il pointe aussi du doigt le fait qu'on ne valorise pas assez, voire pas du tout, les aménités positives de certaines formes d'agriculture. Prenez une prairie permanente, entretenue par un élevage extensif, ça stocke du carbone, ça grouille de vie. La CV classique, elle a du mal à compter ces bénéfices-là.
Avec des résultats qui peuvent parfois sembler contre-intuitifs, les sources parlent même de notations jugées aberrantes, où un produit issu de l'agriculture intensive pourrait, en théorie, apparaître plus vert qu'un produit bio. C'est un peu choquant, non?
C'est la crainte qui est exprimée, oui. Que le focus mis sur l'efficience par unité produite, par exemple, l'impact par litre de lait, finisse par masquer les impacts négatifs plus larges du système intensif. Et puis, il y a un point technique, mais crucial, qui cristallise beaucoup les débats. C'est le calcul de l'impact climatique du méthane.
Ah oui, le fameux CH4, le gaz émis notamment par les vaches, les moutons. Qu'est-ce qui coince là-dessus?
Alors, le problème, c'est que l'ACV standard utilise quasi systématiquement une métrique appelée le PRG 100. C'est le potentiel de réchauffement global à 100 ans. Or, le méthane, lui, il a une durée de vie assez courte dans l'atmosphère, une douzaine d'années environ. C'est pas comme le CO2 qui s'accumule pendant très longtemps. Et le PRG 100, eh ben, il traite ces deux gaz un peu de la même manière, ce qui, d'après plusieurs études citées dans nos sources, notamment celles de l'Université d'Oxford, ou reprises par des experts comme Xavier Pou, ça déforme son impact réel sur la température à court et moyen terme.
D'accord, mais en quoi c'est problématique, cette déformation? Ça change quoi concrètement?
Le PRG 100 aurait tendance à surévaluer l'impact réchauffant d'émissions de méthane qui sont stables ou même qui baissent, et c'est le cas pour l'élevage en Europe depuis environ 30 ans. Et à l'inverse, il pourrait sous-estimer l'impact d'émissions nouvelles ou qui augmentent fortement. Donc changer cette métrique, comme le propose justement le Planet Score, ce n'est pas juste un détail technique pour spécialistes, quoi. Ça peut changer assez radicalement la façon dont on perçoit l'impact climatique de filières comme l'élevage bovin ou ovin.
C'est donc sur ce terreau de critiques et de limites reconnues de l'ACV que le Planet Score a vu le jour. Il a été développé initialement par l'ITAB, l'Institut Technique de la Bio. Et ce qui est assez frappant quand on regarde les sources, c'est le soutien assez large qu'il a réussi à rassembler assez vite.
Oui, effectivement, la démarche se veut assez collective. On trouve aux côtés de l'ITAB et de l'UFC Que Choisir des ONG environnementales connues comme WWF France ou France Nature Environnement, une association de protection animale comme CUF France, et puis aussi un nombre assez impressionnant d'entreprises. Les documents parlent de plus de 200. Ça va des distributeurs spécialisés dans le bio comme Biocoop, La Vie Claire, Naturalia, jusqu'à des enseignes plus généralistes comme Lidl ou Monoprix, et puis plein de marques aussi. C'est un front assez uni qui pousse pour cette alternative.
Et au cœur de cette alternative, il y a une approche qui est décrite comme hybride. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hybride?
L'idée, c'est de ne pas jeter la CV avec l'eau du bain, si vous voulez. On reconnaît sa valeur, mais on veut la compléter et la corriger là où on pense qu'elle a des faiblesses. Donc le Planet Score, il combine deux choses principales. Premièrement, une base ACV, mais qui est modifiée. C'est-à-dire qu'on part des données Agribalis ou PEF, mais on enlève certains indicateurs qu'on juge pas assez fiables pour l'alimentaire, on en ajuste d'autres. Le but, c'est quand même de garder une mesure de l'efficience du produit. Et deuxièmement, et c'est ça la grosse nouveauté, on ajoute ce qu'ils appellent un référentiel externe. Ça, c'est un système d'évaluation complémentaire qui va regarder directement si les pratiques agricoles ou de transformation sont alignées avec les grands enjeux environnementaux globaux, notamment ceux définis par le cadre scientifique des limites planétaires.
Ah oui, les limites planétaires. Ce concept scientifique important qui identifie les seuils critiques à ne pas dépasser pour que la Terre reste stable. On parle du climat, de la biodiversité, de l'eau douce. Et on sait que plusieurs de ces limites sont déjà franchies ou en passe de l'être. Donc le Planet Score essaierait de reconnecter l'évaluation d'un simple produit à ces enjeux planétaires.
C'est exactement l'ambition qui est affichée, oui. Sortir d'une vision qui serait uniquement centrée sur l'efficience du produit pour intégrer sa contribution positive ou négative aux grands défis systémiques.
Alors, voyons comment ça se traduit sur les points faibles de l'ACV qu'on a mentionné tout à l'heure. Prenons les pesticides, par exemple. C'est un sujet majeur pour beaucoup de gens.
Oui, alors là où l'ACV standard, on le dit à peine un peu avec l'indicateur d'écotoxicité, le Planet Score, lui, ajoute un indicateur vraiment spécifique pour les pesticides. Il ne regarde pas juste la quantité utilisée, mais il intègre aussi la dangerosité intrinsèque des substances actives. Pour ça, elle s'appuie sur des bases de données toxicologiques reconnues, comme la PPDB, Pesticide Properties Database. Et cet impact, il est ensuite clairement affiché via des sous-scores dédiés, notamment un sous-score pesticide, et ça joue aussi sur le sous-score biodiversité. L'approche prend aussi en compte l'usage d'antibiotiques en élevage et même la pollution potentielle par le cadmium qu'on trouve dans certains engrais.
D'accord. Et pour la biodiversité, qui est souvent un peu la grande oubliée ou la mal aimée des indicateurs environnementaux, comment le Planet Score essaye de mieux la prendre en compte?
Là aussi, il essaye d'aller plus loin que le simple indicateur occupation des sols qu'on trouve dans la CV. Le Planet Score intègre un système de bonus et de malus qui sont directement liés aux pratiques agricoles sur le terrain. Par exemple, l'agriculture biologique est valorisée, l'élevage extensif à l'herbe aussi, la présence d'éléments comme les haies, les mares, les arbres, ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, ça donne des bonus. Le rôle clé des prairies permanentes pour stocker du carbone dans le sol est aussi explicitement reconnu. Ça, c'est un double gain, climat et biodiversité. Et à l'inverse, il y a des malus, notamment pour la déforestation importée. On pense par exemple au soja qui vient de zones à risque et qui sert à nourrir les animaux. Là, il s'appuie sur des analyses de risque par filière, souvent basées sur les travaux du WWF. L'impact sur la ressource en eau, notamment l'irrigation pendant les périodes sensibles, et même le type d'emballage utilisé, sont aussi pris en considération dans la note finale.
On sent vraiment une volonté de coller davantage à la complexité de la réalité agricole, en fait. Et pour le climat, alors on revient à cette fameuse histoire de méthane. Quelle est la solution proposée par le Planet Score?
Oui, alors comme on l'évoquait, le Planet Score fait le choix d'utiliser le PRG, on prononce PRG étoile ou GWA star en anglais. C'est cette métrique alternative qui est d'ailleurs reconnue par le GIEC comme étant plus adaptée pour estimer l'impact sur la température à court et moyen terme. En faisant bien la différence entre l'effet d'émissions qui augmente, d'émissions qui sont stables ou d'émissions qui baissent, cette métrique donne une image qu'il juge plus juste de l'impact réel du méthane. C'est particulièrement pertinent pour l'élevage européen, dont les émissions, globalement, baissent depuis plusieurs années. Et puis, il y a d'autres facteurs climatiques qui sont ciblés spécifiquement. Des pénalités pour le transport aérien des marchandises ou pour les serres qui sont chauffées avec des énergies fossiles en dehors de la saison normale.
Et il y a une dimension qui était totalement absente de la CV standard et qui fait son apparition ici, c'est le bien-être animal. Comment est-ce qu'il est intégré?
Alors, c'est une information complémentaire. C'est jugé essentiel par les promoteurs du Planet Score, mais c'est présenté de manière distincte du score environnemental global de A à E. Concrètement, dès qu'un produit contient plus de 5% d'ingrédients d'origine animale, un indicateur spécifique « mode d'élevage » s'affiche sur l'étiquette. Il est basé sur des grilles d'évaluation qui ont été développées en partenariat avec l'ONG CIUF France. Ces grilles regardent les conditions de vie réelles des animaux à la ferme. Est-ce qu'ils ont accès à l'extérieur? Quelle est la densité d'élevage, etc. C'est clairement un ajout important pour répondre à une préoccupation qui est de plus en plus forte chez les consommateurs. Pour l'instant, ça se concentre sur la vie à la ferme. Les aspects liés au transport et à l'abattage sont mentionnés comme des pistes de développement pour le futur.
D'accord. La méthodologie semble effectivement vouloir combler pas mal des lacunes qui étaient pointées du doigt pour la CV. Mais bon, pour la personne qui fait ses courses, là, dans le rayon, à quoi ça ressemble sur l'emballage? Est-ce que c'est facile à comprendre?
Alors, l'étiquette que propose le Planet Score, elle mise sur la clarté, un peu comme on le connaît avec le Nutri-Score finalement. On a une note globale, une lettre de A en vert, à E en rouge. Ça, c'est facile à repérer, on comprend tout de suite. Mais là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas juste cette note globale. On a aussi trois sous-scores qui expliquent comment on arrive à cette note. Un pour les pesticides, un pour la biodiversité et un pour le climat. Oui, c'est vraiment l'aspect pédagogique qui est mis en avant ici. Ça permet de comprendre pourquoi un produit est bien ou mal noté sur le plan environnemental. Un produit pourrait très bien être A sur le climat, mais D sur les pesticides, par exemple. Ça donne des clés de lecture beaucoup plus fines qu'une simple note globale qui, elle, peut masquer des réalités très différentes d'un impact à l'autre. Et bien sûr, comme on l'a dit, l'indicateur mode d'élevage vient s'ajouter à côté quand le produit contient des ingrédients animaux.
Donc, on a le verdict global et en plus les raisons derrière ce verdict. Et comment cette note et ces sous-scores sont calculés au final? C'est quoi la mécanique derrière?
Alors, c'est une combinaison, une moyenne pondérée des résultats qui viennent des deux grands piliers dont on a parlé. D'un côté, la CV modifiée, qui mesure plutôt l'efficience, et de l'autre, le référentiel externe qui évalue l'alignement avec les pratiques durables et les limites planétaires. Le calcul est fait ingrédient par ingrédient, en fonction de son poids dans la recette du produit fini. Ensuite, les résultats bruts sont ramenés sur une échelle de 0 à 100. Les documents parlent d'une fonction logarithmique, mais bon, l'idée c'est surtout de créer une échelle plus parlante, et cette note sur 100 est ensuite convertie en lettres, de A à E. Et il y a une distinction importante à comprendre. Le calcul peut être fait de deux manières, soit de façon spécifique, soit de façon générique. Le mode spécifique, c'est un peu le Graal. Il utilise les données précises que le fabricant fournit. Ça peut être l'origine exacte des ingrédients, les labels bio, HVE, est-ce qu'il y a des haies autour des parcelles, etc. C'est là qu'on peut vraiment différencier les produits et valoriser les efforts faits par certains.
Et si le fabricant ne donne pas ces informations, s'il ne joue pas le jeu de la transparence?
Alors, dans ce cas, on bascule en mode générique. Le système va utiliser les données publiques disponibles, comme Agribalaise pour les impacts moyens ou Sical pour les recettes types. Et il va appliquer des hypothèses qu'ils appellent conservatrices. Par exemple, pour le soja, si l'origine n'est pas précisée et garantie sans déforestation, eh ben on applique d'office un malus risque de déforestation. L'idée, c'est double. Éviter le greenwashing, qu'un produit paraisse meilleur qu'il ne l'est faute d'infos, et surtout, inciter fortement les entreprises à fournir les détails nécessaires pour obtenir un meilleur score. C'est un mécanisme qui se veut incitatif.
D'accord, c'est malin. Un autre point qui est souvent mis en avant par les promoteurs du Planet Score, c'est la transparence de la méthode elle-même.
Oui, ils insistent beaucoup là-dessus. Toute la méthodologie détaillée, les webinaires techniques qui expliquent les calculs, les sources utilisées, tout ça est accessible publiquement sur le site internet du Planet Score. Ils affichent aussi une volonté d'évolution avec une mise à jour annuelle qui est prévue pour intégrer les nouvelles connaissances scientifiques ou les nouvelles données qui deviendraient disponibles.
Argumenté aux limites qu'on perçoit dans la CV standard pour l'affichage environnemental alimentaire. Il défend une évaluation plus complète qui intègre mieux les pesticides, la biodiversité, en regardant les pratiques concrètes, le bien-être animal en infos complémentaires et qui utilise une métrique pour le climat jugée plus juste pour le méthane, ce fameux PRG. Le tout avec une présentation visuelle sur l'emballage qui se veut pédagogique, notamment grâce à ces fameux sous-scores. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Concrètement, le Planet Score est sur la table, il fait partie des propositions qui ont été soumises aux autorités françaises, l'ADEME, les ministères, dans le cadre de l'expérimentation qui doit définir le futur affichage environnemental obligatoire. La décision finale sur la méthode qui sera retenue, eh bien, elle n'est pas encore prise. Les sources qu'on a consultées mentionnent une consultation technique qui est en cours et qui irait jusqu'à fin septembre 2025. Donc, l'issue est encore ouverte, le match n'est pas terminé, si on peut dire. Mais en attendant cette décision officielle, pour celles et ceux qui voudraient voir concrètement ce que ça donne, le Planet Score, sur les produits qu'ils achètent tous les jours, il y a une ressource qui est vraiment très pratique, c'est l'application mobile de l'UFC Que Choisir. Comme ils sont partenaires du projet, ils ont déjà intégré les évaluations Planet Score pour des milliers et des milliers de produits. Il suffit de scanner le code-barre avec son téléphone et on accède à la note globale AE, mais surtout on voit les détails, les sous-scores pesticides, biodiversité, climat et l'info sur le mode d'élevage quand c'est pertinent, avec souvent des petites explications. C'est sans doute le meilleur moyen aujourd'hui de se familiariser avec cette approche et de commencer à décrypter un peu mieux les impacts environnementaux de ce qu'on met dans notre caddie.
Oui, tout à fait. Et pour finir, peut-être juste une pensée pour élargir un peu le débat. Au-delà de nous aider à choisir entre deux paquets de biscuits dans le rayon, la vraie question, c'est de savoir si un outil comme le Planet Score, avec sa finesse d'analyse, ses bonus-malus sur les pratiques, sa volonté de se reconnecter aux limites planétaires, est-ce qu'un tel outil pourrait réellement être un levier pour une transformation plus profonde de nos systèmes alimentaires? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un tel étiquetage pousse vraiment l'agriculture et l'agroalimentaire à évoluer vers des systèmes qui ne visent plus seulement l'efficience brute à tout prix, mais qui cherchent activement à restaurer la santé des sols, à favoriser la biodiversité, à améliorer le bien-être animal, tout ça en étant cohérent avec les capacités réelles de notre planète? C'est peut-être là, finalement, que se situe l'enjeu le plus fondamental derrière ces histoires de scores et d'étiquettes.